Donc moi, je vais vous parler maintenant de changement climatique et de pollen, et de l'allergie au pollen. Donc au travers de projets, un projet qui a été du GIS, qui s'appelait PAC, et ensuite qui s'est poursuivi donc dans un autre projet là, à l'échelon européen qui s'appelle Atopica. Donc, il faut savoir que le pollen devient un problème de santé publique important. Hein. On estime que les pathologies liées aux allergies ont été multipliées par 3 depuis 25 ans, donc ça devient quelque chose, on voit une augmentation très importante. Et c'est quelque chose qui a un lien multiple avec le changement climatique, parce que non seulement on retrouve ce qu'on va retrouver pour d'autres choses, c'est-à-dire l'impact évidemment du changement climatique sur la circulation atmosphérique, etc., qui va avoir un impact éventuellement sur la santé elle-même, donc l'augmentation de... liée donc à la fragilisation qui peut créer une sensibilité plus importante donc aux allergies, mais également le fait que là le changement climatique va jouer aussi sur la source elle-même, puisque le changement climatique va jouer sur la production des végétaux et donc sur la quantité de pollen qui va être produite. Donc en fait, alors historiquement, l'idée est venue du fait que le GIS était un écosystème tout à fait favorable pour aborder ce genre d'études, puisqu'on avait on avait différentes composantes, c'est-à-dire à la fois l'écologie, donc pour ce qui était justement simuler la production végétale, ce qui était simulation climatique, transport atmosphérique, donc des médecins. Et également, en plus, non seulement il y a le GIS, mais ça s'est fait aussi en collaboration avec un GDR sur la phénologie, donc qui comprend à la fois des gens qui travaillent sur la modélisation de la phénologie, donc la floraison en particulier, et puis le RNSA, qui est donc le réseau français d'observation des concentrations en pollen atmosphérique. Alors l'idée donc c'était de construire une plateforme de modélisation complète qui permette de simuler les concentrations en pollen, hein. Donc en partant des paramètres météorologiques. Alors vous voyez qu'il y a tout un tas de phases différentes. La première c'est qu'il faut un modèle de floraison, hein. Il faut ensuite un modèle de production qui soit capable de nous dire combien de pollen va être produite. Ensuite, donc, de pouvoir transformer ça en une production journalière d'une quantité de pollen qui va être produite par les plantes. Il faut aussi, évidemment, connaître la distribution spatiale des plantes à la surface. Et puis ensuite, on arrive à, une fois qu'on a donc le pollen produit, il faut savoir combien de pollen va être émis. Puis ensuite, utiliser un modèle de transport qui va finalement nous permettre de connaître les concentrations en pollen. Hein, donc, depuis les périodes de production, la quantité totale, et éventuellement donc ensuite faire une relation entre ces concentrations de pollen et les risques pour être capable de définir à terme des cartes de risque. Allergique. Alors, donc le premier projet qui était celui du GIS, on s'est d'abord intéressé au cas du bouleau, hein, donc un arbre qui produit des pollens. Ah oui, exact. C'est intéressant, oui. Je l'ai pas vu celui-là. Donc le bouleau, c'est très dangereux, c'est bien connu. Et donc l'idée était de regarder l'impact du bouleau, donc EAU, donc on s'est intéressé à ce premier cas où, alors comme j'ai dit, une des premières étapes c'est être capable de constituer des cartes d'émissions de quantité de bouleau à la surface. Alors là, le bouleau ça a le mérite d'être un arbre, donc de ne pas bouger. On verra que on parlera de l'ambroisie, c'est plus compliqué d'être relativement stable dans le temps, hein. Donc on a des cartes relativement précises, on peut constituer des cartes de présence du bouleau là, donc en France. Et puis donc à partir de ça, on calibre un modèle et on peut comme ça. Alors là, on a un exemple où on estime l'émission donc la production. Là, en l'occurrence, c'est la production de pollen par le bouleau en différentes régions de France. Alors ça c'était la préhistoire, on va dire. Et donc ça s'est poursuivi. Le projet PAC n'a pas vraiment donné disons que c'était quand même un énorme travail, donc ça n'a pas été tout à fait jusqu'au bout, mais ça a permis ensuite de s'insérer dans un projet un peu plus gros, qui est le projet Atopica, hein, donc un projet européen qui est coordonné par l'Université de médecine de Vienne, hein, et dont l'objectif, c'est d'évaluer les risques d'allergie au pollen, alors là, d'ambroisie, hein, pas de bouleau, donc sous les contraintes du changement climatique. Et là, c'est un projet dans lequel intervient un certain nombre de composantes, dont effectivement les gens qui travaillent sur le climat, qui travaillent sur la partie production, donc ça, dont on fait partie. Et puis, il y a également donc, toute une partie médicale où il y a des études qui sont faites, à la fois des études expérimentales sur la souris pour regarder l'impact de différents expositions sur les risques d'allergie et donc les conséquences, et puis également des études épidémiologiques. Voilà, l'ensemble étant intégré dans ce projet. Donc nous on s'est intéressé à la partie qui était production enfin de pollen et puis jusqu'à la des cartes de concentration en pollen, hein. Alors l'ambroisie, hein, pour dire l'ambroisie, c'est une plante invasive, hein, qui est originaire d'Amérique du Nord, qui a été introduit il y a une cinquantaine d'années et qui se développe beaucoup. Qui se développe beaucoup dans les pays baltes, mais on en trouve également un peu en France autour dans la région de Lyon. Et ça, c'est une plante donc qui est la plus allergène connue. Donc là, c'est une herbacée, hein, donc c'est une plante qui fait à peu près 1,50 m de haut, et donc qui produit énormément de pollen. Donc là, c'est vraiment un problème très important. Et donc une des premières contraintes, c'est d'être capable de définir des cartes de présence de l'ambroisie. Alors ça, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que dans le cas du bouleau, hein, parce que d'abord, évidemment, ça évolue d'une année à l'autre. Hein. On n'a pas un recensement comme c'est fait au niveau forestier. Donc on a des informations qui sont beaucoup plus éparses. Alors il y a un projet européen dont on a pu récupérer les données, qui a essayé de faire une première cartographie de la présence d'ambroisie. Alors c'est quelque chose de très simple, parce qu'en fait on a juste une information sur des grilles de 10 km par 10 km de la présence ou non de l'ambroisie. Sachant que y a beaucoup d'incertitudes autour de ça, parce que c'est juste une présence, donc on ne connaît pas la densité. On n'a pas non plus d'informations, enfin on a différents évidemment observateurs qui vont pas avoir les mêmes seuils, etc. Donc on a un problème d'homogénéisation dans tout ça. Donc on a essayé de faire avec ce qu'on pouvait. Hein. On a fait un certain nombre d'hypothèses, en particulier en considérant que ça se développait uniquement dans les zones cultivées et urbaines. Dans le projet, il y a un groupe anglais qui travaille sur l'enveloppe climatique de l'ambroisie, donc qui calcule pour un climat donné est-ce que l'ambroisie peut ou non se développer. Et donc on a utilisé, donc on définit comme ça un index de survie climatique qui nous permet de savoir si l'ambroisie peut ou non survivre. Donc c'est comme on l'a vu un peu ce matin pour le moustique, hein, donc c'est un peu la même idée. À partir de toutes ces hypothèses, eh bien, on arrive à définir une carte donc de présence dans l'ambroisie, hein, donc comme vous le voyez, hein, une très forte présence vers la Croatie, autour de Lyon aussi quand même une présence assez importante. Voilà la carte à peu près actuelle de la présence d'ambroisie. Alors, on a développé donc le modèle qui comprend un modèle de phénologie, donc qui nous permet de déterminer sur quelle période la plante va fleurir, quelle quantité de pollen va être produite, à partir de là, ensuite, un modèle d'émission qu'on va mettre dans un modèle de transport atmosphérique qui nous permet à la fin de calculer les concentrations. Donc on a fait une calibration. Alors pour pouvoir calibrer le modèle, on a utilisé les données donc du réseau européen de surveillance aérobiologique, hein, qui nous donne donc, sur un certain nombre de stations, donc, jour par jour, la quantité de pollen qui est comptée sur chacune des stations. Et donc, à partir de là, on a calibré les différents paramètres du modèle, et au total, donc, on l'a fait tourner sur la période historique. Et donc voilà, bon voilà le type de résultat qu'on obtient. Hein. Donc voilà, ça c'est le total de pollen compté donc sur l'ensemble de l'année. Et ça c'est les pics journaliers moyens. Hein. Donc on arrive à avoir des seuils qui peuvent atteindre 700 grains par mètre cube. Sachant qu'il y a un seuil estimé. Alors bon, évidemment, c'est là aussi, c'est très compliqué parce que ça dépend en fait de la durée d'exposition, si c'est plusieurs jours, etc. Mais bon, on estime qu'au-dessus de 10 grains, on peut commencer à avoir des impacts sur la santé. Alors évidemment, donc on a essayé de valider un peu par rapport à nos observations. Donc on arrive à avoir quelque chose qui, bon, ça marche pas parfaitement, hein, mais bon, globalement quand même, on était plutôt agréablement surpris vu toutes les hypothèses qu'on a été obligé de faire, en particulier sur la distribution, de voir qu'on reproduisait pas trop mal les sommes annuelles, hein, qui étaient observées sur les différentes stations, hein, sachant que on a une corrélation qui est supérieure à 0,5. Pour 75% des sites donc, qui ont une concentration moyenne relativement importante. Hein, ça marche évidemment moins bien pour les sites donc, très loin des sources, mais bon, finalement, c'est moins grave, puisque c'est pas vraiment ces sites-là qui vont être très importants. Donc voilà un exemple, hein, de ce qu'on obtient. Donc en rouge, vous avez les concentrations observé sur les sites, en bleu ce que l'on simule. Là, vous avez une station donc en Croatie où on a un chargement très important. Et là, au contraire, vous avez une station en France où le chargement est plus léger. Hein. Donc on reproduit bon, relativement bien à la saison. Évidemment, il y a des pics, par contre, ce qu'on va surestimer ou sous-estimer. Hein. Donc en synoptique, c'est déjà un petit peu plus difficile. Alors après, on s'est intéressé à la période, à faire une simulation sur la période historique. Et alors ce qu'on a fait en particulier, c'est de s'intéresser à, puisqu'après, quand on va faire des simulations dans le futur, on va utiliser des sorties de modèles de GCM. Et la question est de savoir, bon, les GCM, on sait qu'ils ont un certain nombre de biais, etc. Donc la première chose qu'on a fait, c'est sur la période historique, de comparer une simulation où on prenait vraiment donc le climat brut sorti du GCM à un climat qui a été forcé par les réanalyses, donc qui est un vrai, qui est entre guillemets un vrai climat. Et donc ben on voit que là aussi la corrélation est assez bonne, hein, donc ça prouve que en utilisant un climat donc non corrigé, on a quand même des résultats qui sont satisfaisants, donc ça nous donne une certaine confiance sur les simulations qu'on va pouvoir faire dans le futur. Alors, pour ce qui est du changement de distribution, hein, de l'ambroisie pour le futur, on a considéré bon, d'abord deux scénarios, hein, climatiques. On a pris le scénario 4.5 et 8.5, donc un scénario modéré, un scénario plus fort. Et on a considéré deux périodes de temps, 2020-2040, et puis donc 2041-2060, donc jusqu'à la moitié du siècle. Et du coup, on a développé un modèle simplifié d'invasion de l'ambroisie, qui prend en compte un certain nombre de facteurs, donc déjà une vitesse de propagation donc des graines, qui permet de voir la vitesse de diffusion, et ça ensuite c'est modélisé toujours par notre index de survie qui est calculé donc non seulement pour l'actuel mais aussi pour le futur, donc qui permet de voir comment la niche de l'ambroisie se déplace, et également l'évolution de l'utilisation des terres, toujours avec la même contrainte que l'ambroisie se développe sur des terres anthropisées et donc pas sur des terres naturelles. Alors évidemment, comme il y a énormément d'incertitudes sur tout ça, on a considéré trois types de scénarios. Donc un scénario standard, et puis un scénario à invasion rapide et à invasion lente. Hein. Donc vous voyez le résultat ici, c'est le scénario standard, le scénario rapide, le scénario lent, pour les deux scénarios climatiques. Hein. Donc vous voyez qu'on a une extension très importante, enfin, donc, par rapport à l'actuel qui est ici, hein, vous voyez qu'on a dans tous les cas une extension de l'ambroisie qui, évidemment, bon, va dépendre pas mal de la vitesse de propagation qu'on va prendre en compte. Alors, ensuite, on s'est lancé dans les simulations. Donc, un premier cas qu'on a regardé, c'est, bon, comme on fait souvent dans ce genre de choses, dans l'exercice de simulation, on va essayer de séparer les effets. Donc, on fait de l'attribution, donc on fait des simulations, on ne fait varier qu'un paramètre. Et donc, on a fait une première simulation, on gardait la distribution de l'ambroisie actuelle. Et on ne prenait en compte que le changement climatique pour voir quelle était vraiment l'influence du changement climatique lui-même. Donc, pour les deux scénarios 4.5, 8.5, ici, hein, donc là, vous avez 2030 et là, vous avez 2050. Et alors, ce que l'on constate, en fait, c'est que bon, bah, globalement, on a une augmentation. On a une augmentation donc de la concentration en pollen liée au changement climatique. Donc là, c'est vraiment le changement climatique qui intervient. Et ça, en fait, c'est lié au fait qu'on a tendance à avoir un accroissement de la biomasse. Hein, et plus on a de biomasse, plus on a de production de pollen. Avec, en fait, si on regarde dans les détails, il y a deux effets opposés. Il y a un effet, le climat lui-même, donc c'est-à-dire le changement de température et de précipitation, lui a plutôt tendance à faire baisser la concentration, parce qu'en fait, on a un stress hydrique plus important. Alors, c'est pas vrai dans toute l'Europe, hein, mais dans une partie de l'Europe, en particulier au centre, on a plutôt une diminution, donc enfin, une augmentation du stress hydrique qui va avoir un impact négatif sur la production. Mais il y a un deuxième effet qui est celui de l'effet de fertilisation du CO2. Hein, donc, le fait que l'accroissement du CO2 profite aux plantes qui peuvent augmenter leur productivité. Et sachant que bon, c'est cet effet du coup qui est prédominant. Alors sachant aussi que du coup c'est probablement un effet, du coup on a un effet qui est probablement une limite un peu supérieure parce que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup d'incertitudes sur l'impact réel de l'effet de fertilisation du CO2 parce qu'on sait qu'après il y a un certain nombre de facteurs comme la limitation en nutriments azotés, etc., qui peut limiter cet effet de fertilisation du CO2. Hein. Donc, et ça dépend en fait énormément des plantes, donc il y a quand même une certaine incertitude là-dessus qu'il faut bien voir. Alors ensuite, donc, quand on prend deuxième type de simulation, là on prend l'effet climat plus l'effet d'invasion. Et donc là, on voit que bah, quand on prend en compte l'effet de l'invasion, là, on a des concentrations qui augmentent beaucoup, beaucoup, hein, puisqu'on peut atteindre jusqu'à 150, une augmentation de 150 grains de pollen par mètre cube dans certaines régions. Hein. Et donc, ce qu'on voit, c'est quand même que l'effet dominant dans l'accroissement de la concentration en pollen, elle est liée d'abord à l'invasion de l'ambroisie, l'effet climatique étant secondaire par rapport à cet effet-là. Bon, pour finir, alors on l'a fait en fait avec deux, donc il y a deux groupes qui participent. Donc il y a un groupe italien qui nous permet donc d'avoir une incertitude aussi sur les modèles qui sont utilisés. Donc d'un côté on utilise WARF et Chimère et de l'autre côté on utilise le modèle REC-CM, ce qui nous permet d'avoir aussi une incertitude qui est liée au modèle, donc à la fois modèle climatique et modèle de transport qui va être utilisé. On utilise là par contre le même modèle, disons phénologique et de plantes. Et donc vous voyez qu'on a des différences quand même assez sensibles suivant le modèle qu'on utilise, puisque vous voyez que REC-CM par exemple a tendance à faire quelque chose de plus diffus, mais des concentrations moins importantes, mais une diffusion plus large. Donc en conclusion, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a pu établir une chaîne complète de modélisation. Alors ça, c'est je pense l'originalité par rapport à ce qui a pu être fait par ailleurs, c'est que là, on a vraiment essayé de prendre en compte tous les paramètres, hein, c'est-à-dire donc à la fois l'impact sur la productivité, le changement de la phénologie, donc tout ce qui était production, le transport, la distribution, etc. Et donc on est vraiment capable de regarder là l'impact de tous les paramètres sur notre changement. Alors bon, on a des résultats qui sont quand même encourageants puisque on arrive quand même à simuler quelque chose qui, si on le compare aux stations, est pas si mauvais que ça. Alors évidemment, il y a encore pas mal de problèmes. Hein. Il y a beaucoup d'incertitudes sur pas mal de choses, mais on a quand même des résultats assez satisfaisants. Donc ce qu'on a vu en fait en résumé, c'est que donc le changement climatique va jouer globalement, donc va avoir tendance à augmenter la productivité du pollen. Alors en fait, quand je dis changement climatique, c'est essentiellement en fait, enfin c'est changement du CO2, puisque le changement climatique, on a vu, c'était plutôt l'opposé. Mais bon, si on prend l'ensemble des changements globaux, on va dire, donc du coup pas que climatique, on va plutôt avoir une augmentation du pollen liée à ça. Et second effet, qui est celui de l'invasion de l'ambroisie, hein, qui est de loin l'effet prépondérant. Avec quand même là aussi, bon, j'ai pas sorti les cartes de niche écologique de l'ambroisie, hein, mais un des facteurs et qui joue aussi sur l'expansion de l'ambroisie, c'est le fait que le climat quand même favorise globalement l'extension, enfin, de la niche de l'enveloppe de l'ambroisie en Europe. Hein, donc ça, c'est aussi un des facteurs qui va jouer. Et du coup, ça montre l'importance, hein, des campagnes d'éradication qui sont faites et du suivi de l'invasion, puisque on voit que c'est vraiment le premier facteur sur lequel on doit jouer. Bon, pour finir, ce qui manque, hein, encore à faire, c'est le lien avec le risque médical. Hein, donc ça, c'est vrai que c'était il y a longtemps, quand sur PAC, j'avais mis ça dans le projet, mais c'est sûr que c'était probablement trop ambitieux au point où on était. Et donc il y avait effectivement toute cette première phase. Mais maintenant, on commence à arriver là-dessus. Et bon, sur la fin du projet à Topica, qui doit encore prendre une année, on espère commencer à faire le lien avec la partie médicale. Mais ça demandera encore à être poursuivi un certain nombre d'années. Donc, c'est encore un des points qui reste à développer. Et évidemment, enfin, beaucoup de choses qui sont... On a énormément d'incertitudes sur tout un tas de choses. Je l'ai dit, sur la distribution, évidemment, de l'ambroisie. C'est quelque chose qui reste très empirique.
Merci. Donc à propos des modèles de niche, donc il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien compris. Vous allez l'expliquer. J'avais cru comprendre qu'un facteur limitant de la niche écologique de l'ambroisie était l'occupation d'habitats occupés par l'homme, etc.
Oui.
Or, vos modèles montrent qu'il y a un déplacement de niche, mais est-ce que c'est parce que vous n'avez pas imposé une contrainte sur le paramètre habitat, avec un niveau de rugosité faisant qu'il n'y a pas de déplacement d'habitat, ou alors est-ce que c'est une observation ?
Non, alors en fait, alors, donc, on combine plusieurs choses, c'est-à-dire que on a donc là l'équipe anglaise qui a développé le modèle. Eux, effectivement, c'est juste un modèle de niche, enfin potentiel. Hein. Donc eux, ils calculent simplement en fonction des critères climatiques là où peut où l'ambroisie peut être présente ou pas. Alors, donc, c'est pour ça qu'ensuite on combine, c'est pour ça que dans ça c'est la première information, ensuite on la combine avec une deuxième information qui est des cartes d'occupation des sols. Et donc on prend, pour que effectivement l'ambroisie puisse se développer, il faut non seulement qu'elle soit dans son enveloppe climatique possible, donc le premier modèle nous dise ok, elle peut se présenter, et qu'on ait une carte qui nous dise qu'effectivement dans cette zone-là on a une présence de soit d'agriculture, soit de zone urbaine. Et donc c'est à partir de là, donc ça c'est ce qui nous donne le potentiel d'une zone pour pouvoir être infestée ou pas. Et donc, troisième critère, après, c'est la vitesse de propagation qui est prise en compte, qui permet d'avoir la dynamique temporelle.
Apparemment, l'ambroisie est un gros souci pour les agriculteurs. Est-ce que vous avez tenu compte du comportement des agriculteurs et des éventuels herbicides qu'ils peuvent utiliser ?
Non, on n'est pas allé à ce niveau de détail-là. Après, effectivement, à cette échelle-là, on n'a pas des informations. Enfin, on a déjà beaucoup de mal pour obtenir des informations, ne serait-ce que sur la présence. Effectivement, on n'a pas d'informations sur la, Alors, ce qu'il faut dire, quand j'ai dit zone agricole, c'est vrai que c'est plutôt là où ça va se développer, c'est plutôt sur les zones prairiales, par exemple. Hein. Donc, effectivement, sur les zones de culture intensive, c'est pas là que ça va se développer, parce que de toute façon, effectivement, la terre est retournée, etc. Donc, en dehors de l'aspect herbicide qui joue aussi un rôle. Donc, c'est plutôt sur ces zones-là que ça va se développer. Mais bon, là on ne fait pas de différenciation, effectivement, sur... parce qu'on n'a pas d'informations, il faudrait connaître effectivement en telle zone quel type d'herbicide on utilise. On n'en est pas à ce niveau de détail.
Hélène Disquerou, l'ADEME, j'ai beaucoup aimé votre exposé sur la modélisation et l'expansion de l'ambroisie. Après, vous terminez par le lien avec le risque médical reste à faire. Je ne suis pas sûre, en fait. On sait très bien que l'ambroisie est un pollen très agressif qui développe beaucoup d'allergies, de gros problèmes à Lyon. Je pense que là, c'est plutôt agir pour éviter cette expansion dans les quelques années à venir. Parler d'incertitude, là, je pense qu'il n'y a plus trop d'incertitude.
Non, ce n'était pas sur l'incertitude médicale. Non, moi, quand je parlais d'incertitude, non, ce n'était pas ce que je disais sur le lien avec le médical, c'est qu'on ne l'avait pas encore fait. Après, j'ai parlé d'incertitude sur ce qu'on avait fait. Donc, ce n'était pas sur... Là où je parlais d'incertitude, c'était sur le fait qu'on avait encore beaucoup d'incertitudes, nous, dans notre modélisation, sur l'aspect... donc, comme je disais, la plus grosse incertitude, elle reste pour l'instant sur la distribution de l'ambroisie elle-même, je pense. Mais on a aussi l'incertitude sur d'autres paramètres. Après, l'aspect, ce que je disais sur le lien médical, c'est qu'on n'a pas fait... Là, on simule des concentrations. Ensuite, comment faire le lien entre ces concentrations et éventuellement pouvoir faire des cartes de risque, c'est une autre question, parce qu'on sait qu'évidemment, c'est multifactoriel. Enfin bon, on a la concentration, oui. Après, moi je ne suis pas médecin, donc ça, c'est... Je dirais que... Mais bon, ça fait partie du... Enfin, dans le projet Atopica, il y a toute une partie, effectivement, qui essaye d'affiner notre connaissance sur, sur effectivement, la dose et risque. Donc, on n'a pas encore fait le lien dans le projet entre ça, mais ça, c'est prévu. On espère le faire. Et de toute façon, ça se poursuivra, je pense, après le projet.
Carlos Villegas, anthropologue et plasticien. Je vais essayer de comprendre le terme effet fertilisant du CO2 qui est lié au changement climatique et en particulier à l'accumulation des gaz à effet de serre, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Et que c'est lié à la photosynthèse.
Oui, exactement, tout à fait.
Le développement de la plante.
Oui, tout à fait, c'est ça, voilà. D'accord. Oui, c'est vraiment le fait que plus la concentration en CO2... Alors, ça n'est pas pour toutes les plantes. Hein, les plantes de type C3, donc les plantes tempérées, c'est pas vrai pour les plantes tropicales. Enfin, herbacées tropicales, mais effectivement, on a un effet, ça c'est observé tout à fait expérimentalement, que en fait, plus la concentration en CO2 augmente, et plus la machine photosynthétique est efficace. Et donc la plante augmente sa productivité.
Mais juste une question de curiosité, tu as montré que Atopica, coordonné par des médecins à Vienne, c'est
oui,
ça
oui,
mais
oui.
Ils ont fait quoi, les médecins, là-dedans?
Eh bien là, donc le groupe de Vienne, comme je disais, eux, le groupe de Vienne, eux, ils travaillent sur la souris. Donc c'est eux qui travaillent sur l'aspect... Alors il y a plusieurs groupes de médecins. Hein. Donc à Vienne, il y a un groupe allemand. Le groupe de Vienne, eux, ils travaillent effectivement sur... ils ont des souris, ils les exposent à des quantités de pollen. Et donc ils regardent ensuite... les dégâts à différentes doses de l'exposition au pollen. Donc ça, le groupe de Vienne. Et il y a donc un groupe croate et un groupe allemand qui, eux, travaillent sur des études épidémiologiques.
Voilà, juste une question. Par rapport à la distribution de l'ambroisie, vous avez fait à partir de cartes d'occupation du sol qui existent, hein, j'imagine, les FN. Est-ce que vous avez essayé de la détecter, de faire une carte d'occupation du sol à partir de la signature elle-même? Est-ce qu'elle n'aurait pas une signature propre?
Alors, il y a quelques études qui commencent à être faites, je sais. Je sais que ça commence à être fait, quelques études qui essayent de caractériser effectivement l'ambroisie par satellite. Mais bon, c'est très compliqué quand même, parce qu'effectivement...
il faudrait l'hyperspectra.
Oui. Oui, voilà, exactement, parce que là, c'est pas comme la forêt, là aussi, c'est beaucoup plus difficile. D'abord, parce que la densité est quand même dans les zones très infestées, la densité est quand même pas très forte. donc arriver à détecter le
signal. Il faudrait à la fois de la haute résolution pour avoir la finesse.
Non, la haute résolution, ça c'est pas possible parce que là, il faudrait descendre au centimètre. Donc,
elle n'est pas assez concentrée.
Oui, voilà. Donc ça, là, c'est pareil. Autant sur les arbres, si on descend sur du sentinelle, où là, on arrive à des résolutions qui peuvent lui permettre de le caractériser, mais pas pour l'ambroisie. Donc ça, on ne pourra jamais descendre à une résolution suffisamment fine. Après, effectivement, ça serait plus dans l'hyperspectral qu'on pourrait arriver à avoir des choses. Mais bon, ça, à mon avis, c'est quand même quelque chose... Ça sera difficile à avoir, pour l'ambroisie en particulier. Quoi.
Avec un environnement approprié.
Et après, bon, on peut combiner. Après, bon, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on peut combiner des informations qu'on a au sol, donc qui sont des observations, mais l'eau, on n'a pas des valeurs de densité, on a juste des présences, absences, avec peut-être effectivement des données satellitaires qui seraient peut-être un peu moins précises spatialement, mais qui pourraient nous donner au moins, parce que c'est le gros problème qu'on a pour l'instant, hein, c'est qu'on sait simplement elle est présente, elle n'est pas présente, mais on n'a aucune idée de sa densité. On fait des hypothèses fortes là-dessus. Et donc effectivement là s'il y avait le moyen par satellite, ça pourrait aider énormément quoi.
Avant, pour la prochaine présentation sera boulot OT, santé.
Oui, voilà.
Je crois qu'il va tic, ça va beaucoup nous intéresser. Et Sylvie revient parce que